Et tout de suite, on va accueillir nos invités du jour. Souhaiter déjà la bienvenue et le bonjour à vous, Michel Favret.
Bonjour, Joël.
Voilà, d'ici quelques instants, la chronique numéro 77. Hein. Et puis, on rappelle donc que sur le site constellationsetgalaxies.org.
Voilà, dans la partie astronomie, il y a toutes les chroniques de radio dans l'ordre chronologique inverse, hein, les plus récentes d'abord. Et surtout, il y a un petit descriptif du contenu de chacune, ce qui permet éventuellement aux auditeurs qui voudraient les réécouter de choisir les sujets qui les intéressent.
Voilà. C'est archivé, comme ça on peut retrouver les années, les mois, etc. Allez Michel, on vous retrouve dans quelques instants pour la chronique. Corinne, bonjour. Corinne Ayaé, vous êtes présidente de AG33, Astronomie Gironde 33.
Oui, bonjour Joël, bonjour Michel et bonjour Philippe.
Voilà, et puis toujours très, très actif avec l'association. Et puis au mois d'août, c'est une saveur particulière avec la Nuit des Étoiles.
Oui,
c'est un vrai partage voilà, avec d'autres personnes. Voilà, c'est des bons moments, mais ça a une saveur particulière néanmoins. Enfin,
exactement.
Je crois.
Oui, depuis juin, de toute façon, nous avons repris les animations.
Bon,
et
on va en parler,
août,
bien
ce
sûr.
Ce sera 6 animations, dont 5 Nuits des Étoiles.
Voilà, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Mais c'est la passion, et quand elle est partagée, voilà, mais on en parlera avec force détail, bien sûr, Corinne, ici quelques instants, et on est ravis également de vous recevoir. Philippe Gilabert, vous êtes président de Vega de la Lyre, une association de verre.
Oui, tout à fait. Nous sommes une association à verre, et nous avons notre observatoire municipal, pour lequel nous allons effectivement lancer cette Nuit des Étoiles samedi prochain, dès l'après-midi. Et enfin, on renoue un petit peu avec cette habitude de faire la Nuit des Étoiles, puisque l'an dernier, à cause des contraintes sanitaires, on n'a pas pu le faire.
Et oui, il y a eu beaucoup d'événements malheureusement annulés, mais on est ravis, Philippe, et puis comme ça, vous pourrez parler à la fois de votre association, parce que je pense que chacun dans vos associations respectives, voilà, on recherche toujours des adhérents, des bénévoles, et puis c'est bien de donner quelques enseignements pratiques. Et bien sûr, vous allez présenter le programme que vous nous avez préparé chacun pour ces Nuits des Étoiles. Mais peut-être, Michel, si vous voulez dire quelques mots avant de lancer la chronique, où on part directement sur l'actualité.
On peut y aller. Ouais.
Allez, on y va. Allez, chronique avec Michel, et on parlera des Nuits des Étoiles en suivant. Alors, sur l'actu, hein, Michel, petite frayeur pour Thomas Pesquet à bord de l'ISS.
Oui, alors en effet, un incident surprenant qui aurait pu avoir des conséquences graves pour l'ISS, la Station Spatiale Internationale, s'est produit jeudi dernier, 29 juillet. Il était provoqué par l'arrivée d'un nouveau module russe, Nauka. Nos auditeurs se souviennent peut-être que lors de la chronique de début mai, où nous avions parlé plus longuement de l'ISS, j'avais décrit la station comme une enfilade de 5 modules sur une longueur d'environ 50 mètres. Zvezda et Zarya russes, Unity Destiny et Harmony américains. Et sur cette colonne vertébrale, 3 autres modules connectés perpendiculairement, le laboratoire japonais Kibo et l'européen Columbus, ainsi que le module multi-usage Leonardo construit par les Italiens. Cet ensemble d'environ 390 m3 devait s'agrandir fin juillet de 70 m3 supplémentaires avec le laboratoire russe Nauka, ou on l'appelle aussi MLM, pour module laboratoire multi-usage, de 24 tonnes, qui est venu s'arrimer automatiquement à l'ISS jeudi comme prévu. Il faut savoir que ce projet a connu de nombreux retards et reports, car il était initialement programmé pour 2007. Propulsé par une fusée Proton lancée le 21 juillet depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, il a déjà connu quelques péripéties lors de sa montée vers l'ISS, car après sa mise en orbite, ses moteurs principaux n'ont pas pu être allumés, et c'est avec ses moteurs secondaires qu'il a pu finalement rejoindre l'ISS le 29. Cet incident est sans doute à l'origine du problème, survenu 3 heures plus tard, alors que les astronautes s'apprêtaient à ouvrir la trappe pour y pénétrer, ses moteurs se sont mis en marche pour une raison indéterminée, provoquant une rotation de l'ISS selon son axe de tangage, hein, c'est-à-dire quand on est à bord d'un navire ou d'un avion, le mouvement qui fait piquer et remonter le nez, à la vitesse de 1,5 degré par seconde. Devant cette situation inédite, l'état d'urgence a été déclenché à bord de l'ISS et les équipes au sol ont ordonné l'allumage d'autres propulseurs, ceux du module Zvezda et du vaisseau de ravitaillement automatique Progress, pour compenser cette rotation qui a duré 45 minutes jusqu'à l'épuisement du carburant de Nauka. Et l'ISS avait alors atteint une inclinaison de 45 degrés, heureusement sans que sa trajectoire en orbite autour de la Terre n'ait été modifiée. Cette attitude a été corrigée depuis pour revenir à la position habituelle.
Alors Michel, quelles ont été les conséquences de cet incident, notamment pour les astronautes ?
Alors pour ce qui concerne l'équipage, nous pouvons rassurer nos auditeurs, la rotation de l'ISS a été assez lente et ils n'ont pas été secoués à bord, s'apercevant du problème parce que le paysage terrestre visible par les hublots s'inclinait progressivement. Au niveau de la station spatiale, ils ont réalisé une vérification des structures le lendemain, 30 juillet, et aucun problème n'a été détecté. En fait, la principale conséquence est indirecte et concerne la société Boeing. Comme nous en avons parlé plusieurs fois ici, la NASA sous-traite maintenant les envois d'équipage et de matériel vers l'ISS à des sociétés privées, notamment SpaceX et sa capsule Crew Dragon, à bord de laquelle Thomas Pesquet s'est envolé en avril dernier, mais aussi sa version cargo qui a ravitaillé l'ISS début juin. Nous avons déjà évoqué aussi le concurrent de SpaceX sur ce marché de transport vers l'ISS, Boeing, et sa capsule CTS-100 Starliner, qui avait malheureusement échoué lors de son test sans équipage en décembre 2019, n'ayant pas réussi à rejoindre l'ISS après sa mise en orbite. Pas de chance pour Boeing, car ce test devait être répété le 30 juillet, mais les péripéties à bord de l'ISS et son inspection complète ont conduit par sécurité à reporter ce vol, qui devait avoir lieu hier, mais la procédure de lancement a été interrompue 2 heures avant le décollage, suite à la détection d'une anomalie dans le système de propulsion. Dans un premier temps annoncé pour être tenté aujourd'hui, le test a finalement été reporté à une date ultérieure, sans plus de précision, le temps d'analyser complètement cette défaillance. Décidément, Boeing a bien du mal à entrer réellement sur ce marché du transport vers l'ISS, aujourd'hui monopolisé par SpaceX et bien entendu aussi par les Russes avec leur Soyouz.
Alors toujours sur l'actualité, en juillet, récemment, on a vu se réaliser les premiers vols du tourisme spatial.
Oui, comme nous l'avions annoncé début juillet, 2 milliardaires se sont envoyés en l'air à bord des vaisseaux développés par leur société spatiale privée, à commencer par le Britannique, et non américain, comme je l'avais dit par erreur la dernière fois, Richard Branson, fondateur de Virgin, qui a atteint le 11 juillet l'altitude de 86 km à bord du Spaceship Two de la société spatiale Virgin Galactic, dédiée au tourisme spatial. C'est une sorte de navette ou d'avion spatial qui est largué en haute altitude depuis un avion porteur, avant de se propulser seul jusqu'au vol suborbital, puis redescendre se poser en planant. Il était accompagné de 2 pilotes et 3 autres passagers, probablement ayant payé assez cher pour leur petit saut de puce à la frontière de l'espace et connaître quelques minutes les sensations de la pesanteur. Il avait coiffé sur le poteau de quelques jours son concurrent américain Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, qui est monté à 107 km à bord de la fusée New Shepard de sa société spatiale privée Blue Origin, 9 jours plus tard, le 20 juillet. Il était accompagné de 3 autres passagers, sans doute choisis pour des raisons médiatiques assez évidentes. Son frère Mark Bezos, l'astronaute Wally Funk, une vieille dame de 82 ans, qui avait été qualifiée dans les années 1960 au test du programme Mercury de la NASA, mais n'avait jamais été envoyée en mission. Elle est devenue la personne la plus âgée envoyée dans l'espace, invitée par Bezos. Et pour faire bonne mesure, le 4e passager était lui le plus jeune jamais envoyé vers l'espace, Oliver Damon, un jeune homme de 18 ans dont le père, un millionnaire néerlandais, avait acheté le billet lors d'une vente aux enchères organisée en juin par Jeff Bezos au profit d'une fondation créée par Blue Origin, Club for the Future, qui finance des programmes éducatifs en vue d'intéresser les enfants à la conquête spatiale. Pour la petite histoire, on notera que ce n'est pas lui qui avait remporté les enchères, mais qu'il a pu participer à ce premier vol parce que le gagnant, dont l'identité ne me semble pas avoir encore été révélée, qui avait quand même déboursé 28 millions de dollars pour cette première historique, n'était pas disponible pour le faire. Je ne sais pas ce qui l'a empêché de partir, mais j'espère que c'était quelque chose de vraiment important pour rater une occasion pareille et qui lui a coûté aussi cher. Si on veut poursuivre ce petit jeu des records, ce vol comprenait non seulement l'astronaute la plus âgée et le plus jeune à ce jour, mais aussi le plus riche, puisque la fortune de Jeff Bezos est estimée à plus de 200 milliards de dollars, la plus élevée au monde. On pourra aussi remarquer qu'en plus de vouloir réussir ce premier vol touristique avant l'autre, ces 2 milliardaires se chamaillent aussi sur la notion d'altitude à atteindre pour entrer officiellement dans l'espace.
Michel, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel, où finit l'atmosphère et où commence l'espace ?
Alors c'est un sujet de controverse et il est intéressant de regarder de plus près cette frontière. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il s'agit d'une notion purement théorique, car il n'y a pas de limite nette à l'atmosphère terrestre. Plus on s'élève, plus la pression, donc la densité de l'air diminue, mais il n'y a pas de fin évidente. En exagérant un peu, on pourrait dire que l'atmosphère terrestre va jusqu'à 1000 km, même si elle est si tenue à cette distance qu'elle est pratiquement indétectable. On retient généralement une valeur de 600 km, moyenne entre les 400 à 800 km dans laquelle elle varie selon l'intensité de l'activité solaire. Mais comme environ 99% de l'air se trouve dans les 31 premiers kilomètres, il est vraiment très rare au-delà, même s'il produit un freinage par frottement des satellites en orbite basse, comme l'ISS à 400 km, qui doit être remonté de temps en temps pour ne pas voir son orbite baisser jusqu'à une entrée fatale dans l'atmosphère. Le début de l'espace qu'annonce avoir atteint les 2 milliards d'air est une notion très différente. Il s'agit de la limite appelée ligne de Kármán, reconnue par la FAI, Fédération Aéronautique Internationale. Elle correspond à un concept purement aéronautique, calculé par le hongro-américain Theodor von Kármán en étudiant la façon dont vole un avion en fonction de son altitude. On peut facilement comprendre que plus il s'élève en altitude, plus il doit voler vite pour obtenir une portance suffisante en raison de la densité de l'air qui est de plus en plus faible. Et on arrive ainsi à un point où cette vitesse nécessaire pour se maintenir en vol devient aussi grande que celle pour orbiter autour de la Terre de manière purement balistique, c'est-à-dire par le simple jeu de la gravité et de la vitesse, sans utiliser de propulsion. À cette altitude, on ne peut plus distinguer si l'engin vole de manière aérodynamique ou s'il orbite. Malheureusement, en fonction des variations de l'atmosphère sous l'effet du soleil, il n'y a pas de valeur précise à cette limite, et Kármán l'avait calculée dans une fourchette allant de 85 à 100 km, mais pour simplifier, il avait proposé de retenir la valeur ronde de 100 km, ce qui a été fait par la FAI. Historiquement, le premier engin à l'avoir franchi était une fusée A4, prototype des futurs missiles V2 allemands, le 20 juin 1944, puis une fusée soviétique R-7 pendant la guerre froide, un peu avant le lancement du premier satellite Sputnik en 1957. Si on prend cette valeur juridiquement reconnue par la FAI, seul le New Shepard de Blue Origin a donc effectivement dépassé cette limite en atteignant 107 km d'altitude, pénétrant officiellement dans l'espace interplanétaire et faisant de ses passagers de véritables astronautes. Mais Virgin Galactic revendique d'avoir réussi cet exploit la première avec son Spaceship Two, qui n'est pourtant monté qu'à 86 km, parce qu'elle se base sur une autre valeur. En effet, les USA, par son National Advisory Committee for Aeronautics, qui ont le bon goût d'utiliser encore des unités anglo-saxonnes plutôt que le système métrique, ont trouvé plus simple de fixer la limite au nombre rond de 50 miles, soit environ 80 km, limite retenue par l'US Air Force pour qualifier d'astronaute toute personne qui l'a franchie. Et la NASA a adopté aussi cette définition pour éviter des différences de traitement entre les civils et les militaires par rapport à cette qualité d'astronaute. Mais dans tous les cas, je rappelle que ces vols touristiques ne sont que des vols suborbitaux, c'est-à-dire des trajectoires paraboliques montant jusqu'à la frontière de l'espace avant de redescendre sur Terre, et qu'il n'est pas question pour les touristes spatiaux d'effectuer une ou plusieurs orbites, comme le font les vrais astronautes, par exemple à bord de l'ISS.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles justement des sondes martiennes ?
Alors un petit point sur le rover chinois Zhurong, posé à la surface de Mars depuis le 15 mai dernier, qui au terme d'un voyage de 2 mois, à une vitesse moyenne d'environ 8 mètres par jour, a atteint le 12 juillet les éléments de son vaisseau, situé à environ 350 mètres de son point d'atterrissage, son bouclier thermique et son parachute. Alors ce sont encore des images inédites fournies par la CNSA, l'agence spatiale chinoise. Côté américain, le drone hélicoptère Ingenuity a réalisé le samedi 24 juillet son 10e vol au-dessus de la planète rouge, battant à cette occasion son record d'altitude avec 12 mètres et se reposant après 95 mètres de vol. Il a passé le 15 juillet la durée de 100 jours sur Mars avec le rover Perseverance qui, lui, a franchi la barre symbolique de 1 mile, hein, toujours ses unités anglo-saxonnes, soit 1,6 km parcouru. C'est encore tôt pour faire un bilan de la mission, mais on notera que ce premier drone envoyé sur une autre planète permet comme prévu d'explorer des zones inhospitalières pour un rover, ce qu'il a fait par exemple le 5 juillet en volant 625 mètres, son record à ce jour, pour survoler un cratère inaccessible au rover, puis une longue pente avant de se reposer avec une bonne précision dans un cercle de 50 mètres qu'il visait. Pour apprécier l'exploit, je rappelle que compte tenu de la distance entre la Terre et Mars, occasionnant des communications bien trop lentes, c'est en toute autonomie qu'Ingenuity réalise ses vols programmés, se dirigeant en comparant les images fournies par ses caméras avec la cartographie du sol. Les résultats sont si encourageants que la NASA a prolongé la mission, initialement prévue sur 30 jours seulement, avec 5 vols, tant que le drone fonctionne correctement. Il ouvre de nouvelles possibilités d'exploration en fournissant des cartes de terrain précises pour choisir les futures cibles, hein, c'est-à-dire des roches particulièrement intéressantes, que Perseverance va ensuite pouvoir visiter. Cette coopération rover-drone semble prometteuse pour de futures missions planétaires. Mais pour le moment, cela reste encore expérimental et risqué, l'hélicoptère ayant failli se crasher lors de son 6e vol. Nous avons aussi des nouvelles d'une sonde plus ancienne, InSight, posée sur Mars depuis 2018, dans 3 articles publiés le 23 juillet dans la revue Science. En analysant les données transmises par le sismomètre CEIS, je rappelle qu'il était construit sous la responsabilité du CNES français, le Centre National d'Études Spatiales, les chercheurs ont pu proposer une modélisation de la structure interne de Mars, la plus précise jamais réalisée pour une autre planète que la Terre. Elle est assez ressemblante à celle de notre planète, avec un noyau liquide de 1830 km de rayon, contre 3490 pour la Terre, qui est 4 fois plus grande en diamètre, entouré d'un manteau de 1560 km d'épaisseur, 2890 pour la Terre, puis vers la surface, une croûte qui ferait entre 20 et 37 km, c'est 30 à 65 km pour la Terre, selon qu'on parle des fonds océaniques ou des continents. La plus grande différence avec la Terre est la présence pour celle-ci d'un noyau interne solide de 1210 km de rayon, constitué principalement de fer, dont la rotation serait à l'origine du champ magnétique terrestre. C'est en étudiant le noyau martien que les chercheurs espèrent comprendre pourquoi la planète rouge a perdu le sien. Plus près de nous, des nouvelles rassurantes de Hubble, dont j'avais évoqué ici la dernière fois la panne de son ordinateur de contrôle des instruments le 13 juin, qui avait obligé à une manœuvre inédite le 16, consistant à le reconfigurer à distance et le redémarrer. Cette opération semble avoir parfaitement réussi, car après toutes les vérifications nécessaires, le télescope spatial a repris ses activités scientifiques depuis le 17 juillet, avec des images d'un système complexe de 2 galaxies en collision à près de 300 millions d'années-lumière de nous. Petite interruption technique.
Oui, je ne savais pas quoi dire, Michel, mais allez-y sur votre chronique.
Et puisque cette info nous ramène de l'astronautique à l'astronomie, une dernière observation faite cette fois depuis le sol, mais avec le plus grand radiotélescope du monde, l'européen ALMA de l'ESO, installé sur un plateau aride du désert de l'Atacama au Chili, à 5100 mètres d'altitude. Grâce à la radioastronomie, on avait pu mettre en évidence la présence de disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles en formation, c'est-à-dire un disque de résidus dans lequel se forment les futures planète autour de la jeune étoile. On avait même pu mettre en évidence les grains constitués par accrétion de ces nouvelles exoplanètes. Eh bien, ALMA vient de franchir une nouvelle étape dans cette exploration des systèmes planétaires. En étudiant les observations réalisées en juillet 2019 d'une jeune étoile naine située à 370 années-lumière de nous, une équipe de chercheurs associant l'université du Chili et celle de Grenoble ont non seulement confirmé la formation de planètes autour d'elle, ce qui avait déjà été observé un an plus tôt, mais ils ont aussi mis en évidence la présence d'un disque protolunaire autour d'une de ces planètes, c'est-à-dire dans lequel doivent se former des futurs satellites. C'est une première qui montre à quel point notre connaissance des systèmes planétaires et de leur formation progresse grâce aux plus grands instruments les plus récents.
Allez, on est toujours en direct sur de radio. C'est la chronique astro de Michel Favret. Michel, vous allez parler du ciel du mois.
Voilà. Au lieu de terminer la chronique avec cette rubrique du ciel du mois, je l'aborde plus tôt puisqu'elle permet d'évoquer les observations possibles lors des nuits des étoiles dont nous parlerons juste après. Comme chaque mois, je renvoie les auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web. Je rappelle www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org pour avoir les cartes du ciel correspondantes. C'est toujours difficile de montrer des cartes à la radio et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour août cet après-midi. C'est encore juillet qui est en ligne pour le moment. L'été n'est pas vraiment la période la plus favorable pour observer le ciel, avec des nuits très courtes et surtout qui commencent très tard. En ce moment, le soleil se couche vers 21h30 et la nuit arrive seulement vers 22h30 et même 23h30 si on attend un ciel bien noir. À la fin août, le coucher sera vers 20h45 et la nuit vers 21h45. Comme nous sommes au cœur de l'été, en tout début de nuit, ce sont les constellations typiques de la saison qui occupent la plus grande partie du ciel vers le sud et celles de l'automne qui commencent à pointer vers l'est. La voûte étoilée est dominée par la figure caractéristique du triangle de l'été, formée par 3 étoiles brillantes qui sont visibles dès le crépuscule et permettent facilement de situer les 3 constellations auxquelles elles appartiennent. Vega de la Lyre, comme le club de verre, la plus brillante et la plus haute, presque au zénith, c'est-à-dire au-dessus de nos têtes. Altaïr de l'Aigle, nettement plus basse au sud-est, et enfin Deneb du Cygne, la plus à l'est des 3. Dans un ciel bien noir, loin de la pollution lumineuse de nos éclairages, on peut facilement distinguer le ruban laiteux de la Voie lactée, notre galaxie, dont un morceau parcourt le cygne et le prolonge, tandis que l'autre descend le long de l'aigle et devient très lumineux en approchant du Sagittaire, constellation reconnaissable à sa figure ressemblant à une théière, proche de l'horizon sud, juste à côté du Scorpion. À l'est, c'est la constellation typique de l'automne, Pégase, qui se lève, accompagnée d'Andromède, dans laquelle les astronomes ne manquent jamais d'observer la grande galaxie la plus proche de nous, à quand même 2,5 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus lointain qu'on puisse distinguer à l'œil nu dans le ciel, mais son observation est bien plus intéressante dans un télescope, comme ceux que les astronomes vous prêteront pendant les nuits des étoiles. Un spectacle à ne pas rater. Fin août, tout cela sera décalé vers l'ouest avec en début de nuit le triangle de l'été plein sud et Pégase levé bien plus haut. Côté planète, nous ne serons pas très gâtés pour les nuits des étoiles où le début de soirée est souvent consacré à l'observation de la Lune en attendant la nuit noire. Or cette année, il n'y a pas de Lune dans le ciel en soirée aux dates choisies. Pour patienter en attendant un ciel bien noir, il faudra se rabattre sur les planètes. Vénus, qu'on aperçoit en ce moment pendant le crépuscule, mais plutôt basse, car se couchant dès 22h30. Ce sera aussi le cas des deux autres planètes présentes côté est, la très brillante Jupiter, qui domine de son éclat tout le ciel de l'été, précédée de Saturne. Elles sont trop basses en début de soirée pour avoir des images de grande qualité, qui seront bien meilleures plus tard dans la nuit. Mais cela n'empêchera pas les astronomes de braquer leurs instruments vers elles afin d'observer les beaux spectacles qu'elles nous offrent avec les anneaux de Saturne et les quatre principaux satellites de Jupiter qu'on peut déjà apercevoir dans une simple paire de jumelles. Mais c'est bien mieux avec une lunette astronomique ou un télescope. On pourra notamment voir Io et Europe émerger de derrière la planète vendredi vers minuit. Autre spectacle dont on sera privé pour ces nuits des étoiles, les traversées du ciel de l'ISS qui rencontrent toujours un grand succès auprès du public, mais malheureusement la station a la mauvaise idée de nous surveiller en plein jour en ce moment. Par contre, l'absence de lune devrait être favorable à l'observation des Perséides, les étoiles filantes assez nombreuses en cette période. Et dans leur télescope, les astronomes pourront essayer de pointer un objet assez pâle, une petite comète qui se promène entre Vierge et Balance, immatriculée C2020-T2. Pour observer le ciel plus tard dans le mois, je signale quelques conjonctions de la Lune avec les planètes. Le mardi 10 et le mercredi 11, un fin croissant accompagnera Vénus dans le crépuscule. Puis le vendredi 20 et le samedi 21, une Lune quasi pleine passera successivement près de Saturne puis de Jupiter.
Allez, toujours la chronique astro de Michel Favre sur Eudo Radio. Et là, Michel, vous allez aborder le sujet, le thème bien sûr d'actualité, les Nuits des Étoiles 2021.
Voilà, tout le monde connaît probablement cette manifestation nationale très populaire qui existe depuis 1991 à l'initiative de l'AFA, l'Association Française d'Astronomie, fédération regroupant la plupart des clubs d'astronomie en France. Les plus anciens se souviennent peut-être des premières éditions qui donnaient lieu à toute une soirée d'astronomie sur Antenne 2, comme elle s'appelait à l'époque, avec des intervenants prestigieux comme par exemple Hubert Reeves. Cette période dorée est bien révolue puisque France Télévisions a cessé son partenariat en 2003 et que depuis 2016, le ministère de la Recherche ne soutient plus cette opération. Malgré ces aléas, elles auront encore lieu cette année où l'on fêtera les 30 ans de ce rendez-vous populaire, même si le contexte sanitaire de la Covid-19 rend encore leur organisation compliquée cette année, programmée à la fin de cette semaine du vendredi 6 au dimanche 8 août. Pour avoir le détail des manifestations, les dates et les lieux, le mieux est de consulter le site en ligne de l'AFA, www.afaastronomie.fr, puis le choix Nuit des étoiles dans le menu événements. On y trouve une carte indiquant les animations qui auront lieu partout en France. Avant que Corinne et Philippe nous parlent des animations qu'ils organisent dans la région bordelaise, je rappellerai juste celle de Jal Astronomie, dont le président n'a pas pu venir en studio avec nous, toute située à l'ouest de Bordeaux, vendredi 6 août à partir de 21h30 à la plaine des Biges de Saint-Médard-en-Jal, samedi 7 août à partir de 14h30, car l'observation du soleil et d'autres ateliers destinés aux enfants seront proposés l'après-midi, à la plaine des sports Colette Besson de Martignas-sur-Jal, et dimanche 8 août à partir de 14h, là aussi avec le soleil et d'autres animations l'après-midi, à l'écosite du Bourgail à Pessac.
Très bien, merci Michel pour cette chronique. Mais bien sûr, voilà, on vous garde bien évidemment. On va parler avec les invités, puis vous intervenez bien sûr quand vous voulez. Alors justement, Corinne et Philippe, alors évidemment, vous allez nous parler du programme que vous avez concocté avec vos associations respectives, mais peut-être chacun rappeler en quelques mots, par exemple Corinne. Allez, on va être galant, on va commencer par vous. Donc AG33, Astronomie Gironde 33, en quelques mots, c'est tout le long de l'année. Il y a quand même une activité, certes il y a la nuit des étoiles, mais en quelques mots, présenter l'association, comment vous fonctionnez, vous retrouvez régulièrement, comment ça fonctionne de l'intérieur, hein, tout simplement.
Oui, effectivement, on se retrouve très régulièrement, en fait, toute l'année, de janvier à décembre, deux à trois fois par mois, souvent des nuits sans lune, de préférence, pour observer. Et on est situé au mémorial de la ferme de Richemont, qui est à environ 2 km au sud de Socatz, c'est-à-dire environ une trentaine de kilomètres de Bordeaux, toujours au sud. Et là, nous accueillons le public à venir se joindre à nous, d'autres astronomes amateurs, hein, on n'est pas regardants. L'idée, c'est vraiment de partager un bout de ciel et une bonne soirée, tout simplement en expliquant aux néophytes à lire le ciel, à utiliser leur propre télescope s'ils ne savent pas le faire. Et entrecoupé de ces soirées, nous proposons aussi des animations, soit à la demande d'infrastructures, soit nous-mêmes, nous les organisons sur le site de Socatz.
Voilà, donc très actif tout au long de l'année. Beaucoup d'adhérents, il y a beaucoup d'adhérents, de nouveaux adhérents qui pourraient vous rejoindre, parce que des fois, on aime bien avoir une structure pas intimiste, c'est pas le mot, mais qu'on soit pas trop nombreux non plus pour pouvoir vraiment échanger.
Alors justement, on est un peu particulier là-dessus, parce qu'on a une quarantaine d'adhérents, mais les adhérents, chez nous, il faut qu'ils soient des astronomes amateurs avertis, parce qu'en fait
même des critères, bien évidemment,
hein. On a créé AG33 uniquement pour faire de l'animation, donc faut savoir quand même faire de l'animation.
Donc il y a un test pour rentrer?
Non, parce que la plupart de ceux qui nous rejoignent au mémorial, souvent ce sont des astronomes amateurs déjà avertis qui aiment notre façon de faire et qui finissent par adhérer tout simplement au club. Je rappelle que les débutants, hein, ceux qui ne peuvent pas prétendre à faire des animations, on leur enseigne gratuitement la lecture du ciel et l'usage d'un télescope. Si plus tard, en étant un peu plus assidu, en venant régulièrement à nos soirées, ils voudraient faire de l'animation ou simplement rejoindre le club en ayant ce petit bagage, ils seront les bienvenus,
bien sûr,
évidemment.
Voilà, peut-être Philippe dire quelques mots, et puis après chacun vous pourrez présenter le programme. Donc là également, on rappelle, vous êtes président de Vega de la Lyre à Vert, des passionnés avant tout. Alors vous, votre fonctionnement, si vous avez comme cela, des animations, des rendez-vous réguliers, pour vous retrouver, pour être force de proposition d'animation future.
Bien sûr, nous avons eu la chance de construire il y a à peu près 25 ans un observatoire avec une coupole, et récemment, depuis quelques années, nous avons même une salle de conférence pour... qui nous permet aussi de faire des ateliers, des exposés. Donc tous les samedis soirs à partir de 21h, l'observatoire est ouvert pour les adhérents, ouvert aussi aux visiteurs. On les accueille, ils participent avec nous aux observations. Nous avons un télescope 300 mm dans la coupole, il sera utilisé pour la nuit des étoiles, mais il est aussi utilisé par les adhérents. Il y a un staff qui apprend évidemment à tout astronome amateur qui vient à utiliser et à se perfectionner à l'observation du télescope. Et aussi, nous avons aussi entre guillemets un petit libre service, un télescope qui permet, après quelques ateliers d'habilitation, pour utiliser un télescope, un C8, sur le pré attenant à l'observatoire, une caméra aussi numérique, un ordinateur qui permet aussi d'aller jusqu'à l'astrophotographie. Mais tout le monde peut venir, tout jeune et moins jeune, en tant que visiteur, participer avec nous aux observations.
Très bien, on donnera toutes les coordonnées d'ailleurs de vos associations respectives. Or Corinne, Nuit des Étoiles, oui, mais intervenez quand vous voulez, Michel, vous êtes chez vous.
Oui, je voulais juste dire
si vous voulez compléter, bien sûr,
n'hésitez
pas.
Il y a de nombreux clubs d'astronomie en France, hein, on parle de ceux de projet de Bordeaux aujourd'hui, c'est logique. Moi, d'après l'expérience que j'ai des contacts avec ces clubs, je viens d'une autre région, je viens de Franche-Comté au départ. Souvent, les clubs d'astronomie sont très très ouverts à l'accueil du public pour montrer le ciel, pour parler de leur passion, de montrer un peu aussi comment on s'utilise les instruments, parce que malheureusement, en particulier les enfants, peuvent assez rapidement être dégoûtés de l'astronomie en utilisant des mauvais instruments ou en sachant pas s'en servir. Donc c'est bien d'aller à la rencontre des clubs. Il y a quelques clubs qui sont un peu plus fermés, mais la plupart sont quand même très ouverts. Et les clubs dont nous parlons ce matin, enfin ce midi, sont à mes yeux particulièrement ouverts au public et réalisent beaucoup d'animations. Et c'est ça que je trouve très intéressant, qu'il y ait une forte activité à destination du public.
Très bien, c'est une bonne observation, Michel. Vous intervenez quand vous voulez, bien sûr, sur notre rendez-vous aujourd'hui. Alors, Corinne, édition 2021. Alors, on va pas revenir en arrière à 2020, année difficile. Non, mais ça, je parle pour les invités, pas pour vous en particulier.
AG33 était un des rares clubs en France à réaliser la Nuit des Étoiles l'année dernière, ce qui leur a valu même les faveurs de la télévision.
Ah, mais on ne me dit pas tout alors, Corinne.
Effectivement, on est passé.
Cette médiatisation, parce que c'est vrai que Michel nous l'a rappelé, Antenne 2, enfin, France 2 maintenant, il y a plus cet angle-là, cette ouverture. Alors, comment vous avez eu les honneurs de.
Mais tout simplement, en fait, j'ai
vous
rien
étiez
demandé,
peut-être
hein. C'est eux qui ont appelé tout simplement en disant qu'ils cherchaient une Nuit des Étoiles en Gironde.
Et comment tout était annulé quasiment.
Surtout qu'ils soient à la campagne. Parce que celle de la ville était maintenue, parce que comment participer à trois nuits des étoiles, pourquoi la nôtre, celle qui était à Socats, hein, je parle au milieu des champs, et donc ce concept leur a plu, et ils sont venus faire le reportage. Alors là, par contre, il y a bien un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que les journalistes, pour une fois, parce que c'est pas la première fois, mais pour une fois, ils sont restés jusqu'au bout. Ils sont restés jusqu'à minuit à regarder les gens.
Donc partager avec vous en même temps.
Voilà, et en même temps regarder le ressenti du public et tout. Ils ne font pas comme certains journalistes qui viennent, restent une demi-heure et repartent.
Oui, parce que ça, après, il y a des contraintes pour qu'un journaliste puisse monter son sujet.
Mais là, ils ont fait vraiment un très joli reportage et bien juste. Voilà, c'était très bien. Mais pour rebondir sur le journaliste, je voudrais juste revenir sur ta chronique. Comme quoi tu dis France 2 ne diffuse plus d'émissions, mais je rappelle que Arte, le samedi soir de la Nuit des Étoiles, diffuse tout un panel de documentaires sur l'astronomie, justement lors des Nuits des Étoiles.
Oui. Donc, alors j'en parle pas exprès parce qu'en fait je préfère que le public aille sur le terrain voir dans nos télescopes et à la limite ils enregistrent les documentaires s'ils veulent pour les regarder un autre jour.
Tout le monde ne peut pas sortir malheureusement. Pour diverses raisons, et en plus en ces temps de Covid. Donc, n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas venir sur les sites des Nuits des Étoiles, n'hésitez pas à regarder Arte.
Très bien. Alors, Corinne, c'est quoi le programme 2021? Parce que là, il y a toute l'équipe qui est mobilisée.
Alors là, justement, je suis contente parce que ceux qui avaient annulé l'année dernière, donc deux structures, ont décidé de maintenir cette année, quitte à se plier à diverses règles.
Donc, il y aura des prérogatives sanitaires, bien sûr.
Vendredi, en compagnie de la Société Astronomique de Bordeaux, des membres d'AEPIC et Cap Science et la ville de Florac, nous serons donc à Florac, à l'Esplanade des Libertés. Donc pour une grande soirée, mais vraiment très diverse, très éclectique, avec des ateliers enfants, des tirs de fusée à eau. Bon, je pense que Blandine a dû vous en parler pas mal.
Oui, Blandine est venue. On peut retrouver l'émission, bien sûr, en podcast sur odoradio.fr. Elle nous en a parlé.
Pour les plus courageux, le lendemain, nous irons... Alors là, ce sera un peu pareil que pour Florac. On sera à Saint-Vivien-de-Blaye. La seule différence, ça va être le ciel un peu plus noir, parce qu'on sera un peu plus éloigné de Bordeaux, donc on subira moins la pollution lumineuse. Il n'y a qu'un lampadaire sur le site et le maire veut bien le couper. Donc,
oui, parce qu'il faudra que ce sera le cas, hein, on le rappelle. C'est vraiment, ça sera plus qu'un environnement, une même dynamique.
On est très proche de Bordeaux et ça gêne un peu quand même.
Bon.
En fait, le troisième soir pour ce premier week-end.
Et oui, c'est pas fini, Corinne, très active.
Va être le plus noir parce qu'on va carrément aller un peu dans les Landes sur un site que pas mal de Girondins connaissent, l'écomusée de Marquès à Sable.
Oui, c'est un lieu patrimonial qu'on visite souvent, même en milieu scolaire.
Donc là, ça va vraiment être un plaisir pour nous.
C'est un lieu que vous connaissez déjà, enfin que vous aviez investi avec l'association déjà.
Depuis des années. Donc,
oui, parce qu'on peut connaître un lieu parce qu'on y va entre guillemets en touriste.
Non.
Mais là, par rapport à l'activité, vos repères.
Voilà, exactement.
C'est important de le préciser.
Et là-bas, malgré le site qui se prête pas à ce genre de soirée, on va pouvoir observer, bien sûr, mais surtout donner des conférences grâce à juste une prise électrique. Donc vous voyez, on est assez bien équipés. Et finalement, on va se reporter au week-end suivant, puisque nous, c'est là que le vendredi 13 août, vendredi 13, hein, ce sera un jour de chance.
Oui, j'ai pas osé rebondir, mais comme j'avais eu dans
on pourra faire notre nuit des étoiles au mémorial de la ferme de Richemont à Socatz. Et là, ce sera vraiment au milieu des champs de maïs, donc je veux dire, avec la structure observation, exposition d'astrophoto et nos conférences qu'on donne aussi, juste avec une simple prise électrique toujours. Et nous pourrons donc émerveiller à nouveau le public. Et le lendemain, pour finir ces nuits des étoiles...
C'est pas fini, Corinne,
non, mais oui. On sera à Fargues-Saint-Hilaire, au domaine de la fraise.
Oui, qu'on
donc,
connaît bien.
À l'UFCV, voilà. Avec leur public, et donc toujours, on connaît bien la structure aussi. On y
mais je n'en doute pas, hein, je pose voilà. Quelques questions, mais en général, on connaît les réponses. Donc, pour tous ces rendez-vous, il y aura bon, le protocole sanitaire, bien sûr.
Voilà. Alors, le masque, le masque sera obligatoire sur toutes les soirées, quoi qu'il en soit. Et puis, pour les passes sanitaires, je crois que pour les trois premières nuits des étoiles, il sera demandé. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des organisateurs. Et nous, le vendredi 13, je me vois mal le mettre en place. Donc, si je n'ai pas de contrôle de la préfecture qui nous a déjà donné son autorisation, ce sera sans passe sanitaire, mais les gestes barrières seront indispensables et j'y veillerai.
Bien sûr, parce qu'il faut, quoi qu'il arrive, apprendre à vivre avec le Covid.
Exactement.
Voilà. Je pense que la distanciation sociale, bon, on le fait plus ou moins, je pense qu'on fait moins de bises, etc. Voilà, c'est une autre manière de fonctionner, mais c'est important de le rappeler. Oui, Michel.
Oui, je voulais juste préciser.
Parce que c'est sur le masque ou sur les bises?
Ouais, sur le masque, faire. Parce que les auditeurs peuvent être surpris qu'on impose le port du masque pour des activités qui sont en plein air. Hein, donc, normalement, il n'y a pas vraiment de contraintes à ce niveau-là, surtout si on respecte une certaines distanciations, mais pour l'observation astronomique, on vient se mettre tout près des instruments, hein, le visage
oui,
pratiquement au toucher, donc
le
port du masque est là pour empêcher que la contamination puisse se faire par le biais des instruments ou que chaque participant va approcher à son tour. Quoi.
Voilà,
donc
c'est
l'explication.
Il faut dire que nous, on aime beaucoup parler astronomie, on fait pas attention aux distances physiques, et donc pour éviter d'avoir à se contraindre sans arrêt à regarder si on est prêt ou pas prêt, donc c'est pour ça que le masque devient indispensable.
Oui, parce qu'on est pris, par la passion, puis c'est naturel, hein. Et je ne vais pas parler que les enfants, parce que souvent, on va dire, les enfants, ils sont plus naturels, plus... voilà, mais les petits, les grands, c'est pareil. Philippe, vous voulez juste rebondir?
Expliquer, est-ce qu'on va les faire?
Ah oui,
mais
je vais vous donner la parole, je terminais juste à...
Mais au niveau des passes sanitaires, effectivement, nous, on va demander le pass sanitaire valide pour les adultes, les enfants n'étant pas obligés de le présenter et puis porter un masque pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans lorsqu'on observe au télescope, lorsqu'on rentre dans l'observatoire. Dans le pré, on tolérera une distanciation de 2 mètres et ça suffira, on pourra sortir le masque.
Très bien, je vais juste quelques instants parce qu'il faut gérer le temps avec Corinne et je reviens tout de suite vers vous. Philippe, alors qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux familles, etc. On s'inscrit avant pour les rendez-vous, on vient comme on est, on montre patte blanche. Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour bien vivre les nuits des étoiles? Parce que souvent, il y a une question de temps. Alors, par exemple, il peut faire un petit peu frisquer peut-être dans ces endroits-là.
Oui.
Donc, quel conseil donner, Corinne?
Alors, pour ce qui est de vendredi 6 et dimanche 8, effectivement, la réservation est indispensable, même si l'accès est gratuit. Il y aura une régulation.
Pour l'accueil,
voilà.
Etc.
Pour Saint-Vivien de Blaye, non. Donc venez simplement. Alors oui, effectivement, quel que soit le site que vous choisirez, portez un pull, des chaussures fermées, un pantalon. Ne venez pas en claquette short parce que vous allez vite le regretter.
Ça tombe sur le sens, mais il faut bien le dire parce qu'on est. Même là, si avec la météo, là, on s'est un petit peu confus des fois. On est en ambiance estivale, alors des fois, on peut venir comme on est au camping voisin, mais...
Exactement, même en ville.
Suivre, c'est bon conseil.
Même en ville. On a fait une animation à Sainte-Eulalie, là, tout récemment, et un des organisateurs était en short. Il a fini avec la couverture de survie sur les épaules. Donc,
voilà.
C'est un peu dommage de se gâcher la soirée pour ça.
Tout à
couvrez-vous
fait. Très bien. Corinne, vous pourrez compléter avec Philippe et le temps également d'expliquer. Alors dites-nous un petit peu, vous Philippe, avec l'association Vega de la Lyre.
Quel programme vous avez concocté? Alors on se cale sur une soirée pour samedi 7 août.
Donc ce samedi. Hein.
Et en fin de compte, on va commencer dès l'après-midi, dès 15h, pour observer le soleil. C'est-à-dire on va mettre en place sur le pré devant l'observatoire, devant la coupole, un hélioscope, c'est-à-dire un appareil qui nous permet d'observer la surface du Soleil, sans danger évidemment, ses protubérances et son activité. Ça, c'est assez remarquable. Donc ensuite, dès le coucher du Soleil, on va embrayer évidemment sur les premières étoiles qu'on va voir apparaître, principalement celles du triangle de l'été, comme on disait tout à l'heure, Michel. Et ensuite, on focalisera sur les objets relativement brillants, d'abord Saturne et Jupiter, et ensuite on partira un peu plus dans ce qu'on appelle le ciel profond, c'est-à-dire les objets un peu ténus. Il y a des amas globulaires, il y a des étoiles doubles aussi, il y a des galaxies, et puis il y a cette petite comète aussi, ça va être le challenge à la trouver. Et puis entre les télescopes, puisqu'on va mettre plusieurs télescopes sur le pré, il faudra aussi lever la tête au ciel, parce que les Perséides risquent de tomber, bon, peut-être en pluie, j'espère, pas comme les nuages qui nous font de la pluie, mais voilà, là c'est un petit espoir d'avoir quand même une activité perséide assez importante. On met aussi en place dans un box, un télescope avec une acquisition ordinateur pour les personnes qui seront intéressées à voir comment on fait de l'acquisition photo, comment on filme Jupiter par exemple et comment on extrait des images. Dans la coupole, on va mettre en place évidemment une file d'attente, parce qu'il risque d'avoir un peu d'attente, puisque contrainte sanitaire oblige, on est obligé de réduire un petit peu la jauge de 10, on va passer à 5, donc il risque d'avoir un petit peu d'attente. Donc on a prévu une personne avec un laser guide qui, à côté de la file d'attente, permettra de pointer le ciel et de repérer les constellations, de nommer les étoiles,
s'occuper de manière et d'être à l'avenant.
Alors pour tout ça, tous ces voyages interstellaires et interplanétaires, on a prévu une buvette avec sandwich et quelques petits gâteaux.
Ça, donc, c'est le côté bienveillant.
Voilà. Donc l'entrée est gratuite. Bon, c'est bien si vous participez à l'achat de un café ou un sandwich, etc.
Oui,
pour permettre à l'association de supporter ces frais. Voilà, tout à fait. Évidemment, l'accès à la buvette, il faudra évidemment porter le masque. Mais pour manger, non.
On l'enlève quand on mange.
Oui, surtout pour boire un café. Ça m'est arrivé une fois. C'est une mauvaise expérience que je garde encore. Voilà. Et puis,
pour du masque. Est-ce qu'il faut s'inscrire
Alors, non, pas du tout. L'entrée est libre. Par contre, il y aura un sas d'entrée. Il faudra présenter son pass sanitaire valide, évidemment. Mais l'entrée est gratuite et il n'y a pas besoin de s'inscrire.
Donc, pas besoin de s'inscrire. Et puis, c'est vous qui gérez avec
vous. Voilà. Alors, si la météo.
S'il y a un flux trop important, la buvette ou.
Voilà. Et le prix est assez vaste. Il y aura les instruments sont un peu disséminés. Donc, on pourra se balader. Si la météo est mauvaise, on a prévu de se rabattre sur la salle de conférence de l'Observatoire et de présenter des petits exposés, des mini-conférences qui vont tourner. Et aussi, on fera des petits ateliers de mise en station d'un télescope. Et certains de nos visiteurs qui souhaiteront manipuler, équilibrer un télescope, ils pourront le faire.
Donc là, même question qu'avec Corinne, bien sûr, est-ce qu'il y a des conseils à donner ? Alors, vous avez tout prévu. On ne peut pas toujours prévoir, quand on est en extérieur, d'avoir un plan B. Donc, vous, c'est prévu. Vous adapterez le cas échéant. Parce que là, je présume que chacun, vous regardez tous les jours la météo. Tout ça, c'est l'élément qu'on ne peut pas maîtriser. Mais est-ce qu'il y a quand même des conseils, sous-conseillers, par exemple, des familles où l'enfant qui a eu, je ne sais pas, certains matériels, a envie de l'amener ? Est-ce que vous préconisez de le faire ? Ou pas.
Il peut l'amener, sauf qu'on pourra juste le regarder qu'un instant, parce qu'il y a trop de monde.
Et puis donner peut-être un avis, parce que c'est vrai qu'il y a des normes certainement respectées.
On donnera un avis rapide, oui, un avis rapide.
Par contre, vous n'êtes pas là pour ça, pour analyser chaque fois.
À ce moment-là, c'est un peu délicat.
Vous pouvez intervenir aussi, mais par contre,
le samedi suivant, ça sera ouvert à 21h en permanence. Donc là, on va inviter ces personnes à venir tout simplement avec l'instrument, et là, on fera une analyse.
Oui, parce que tout est à disposition. C'est-à-dire qu'il y a toute l'équipe de passionnés qui est là vraiment pour vulgariser le cas échéant, parce qu'on peut venir, et puis même si on n'y comprend rien, par curiosité, c'est l'éducation populaire
qui est utilisée. Tout à fait.
Donc là, on est capable, parce que là, quand vous parlez entre vous, bien sûr, vous avez une maîtrise parfaite, mais là, pour des gens qui viendraient les mains dans les poches,
pas de souci, au contraire.
Voilà, du moment qu'il y a une passion, qu'il y a un échange.
Oui, il pourra peut-être.
Il y a des questions qui peuvent prêter à sourire pour vous qui êtes des érudits, mais c'est ça.
Non, il n'y a pas de question qui prête à sourire. Moi, je dis que
non, mais façon de parler, je ne me permettrai pas de.
Toute question est utile et amène toujours des réponses d'expérience, et au contraire amène, comment dire, ça sort un petit peu on n'ose des fois pas s'approcher d'un télescope, et en fin de compte il n'est pas sacralisé.
Tandis que là tout est fait justement, bon, il y a cette barrière entre guillemets sanitaire.
Ah, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose.
Oui, mais il faut s'y adapter.
Voilà, on s'y adapte. Je pense qu'avec le masque et le passe sanitaire valide, un peu de gel sur les mains, et tout ça, ça roulera bien.
Vous avez beaucoup d'adhérents au sein de l'association de passionnés qui sont là tout le
long. Hors Covid, je vais dire oui. On monte à plus de 50-60.
Après, le but, c'est pas la... C'est
non,
pas
malheureusement...
Il vaut mieux avoir un noyau de passionnés actifs.
On a un noyau de passionnés. Il est resté fidèle. Mais là, il y a eu une chute quand même du nombre d'adhérents, surtout avec le couvre-feu, malheureusement, qui nous interdisait d'observer la nuit. Voilà, j'avoue que
ça a passé pour
ça,
beaucoup.
Ça a cassé beaucoup de choses.
Donc là, la nuit des étoiles, ça permet néanmoins également de
pouvoir. Je pense qu'on va avoir une reprise. Elle commence à se faire, puisqu'on est couvert que le couvre-feu, c'était fin juin, début juillet. Donc on a commencé par une première ouverture non-stop 24 heures. On a fait les 24 heures de l'observatoire. Malheureusement, Dame Météo n'était pas d'accord, elle nous a mis des nuages et de la pluie. Mais quand même, on est resté non-stop toute la nuit.
Et ça, c'est la passion, on est porté.
Ça s'est terminé par une soupe à l'oignon vers 4h du matin, sous les nuages et un peu de pluie. Mais bon.
Ça, quand on revoit les photos, je pense que ça peut être à sourire.
On va le poursuivre, tout ça.
Allez, attention, parce qu'il va nous rester juste quelques minutes. Donc, si vous voulez compléter par des infos, Michel.
Je voulais juste revenir sur l'histoire des clubs d'astronomie. Pour fixer les choses, il y a quelques années, l'AFA avait fait une enquête auprès des clubs. Donc ça doit remonter à 2005 ou quelque chose comme ça. Et à l'époque, ils avaient déterminé qu'il y avait à peu près 1000 clubs d'astronomie en France, hein, donc une dizaine par département en moyenne. Il faut savoir que pour observer le ciel, on ne va pas faire des centaines de kilomètres, hein, donc les clubs sont assez locaux finalement.
Oui,
il y avait à peu près 25 000 astronomes licenciés, enfin si on peut dire adhérents à ces clubs, ce qui fait que la taille moyenne d'un club d'astro, c'est autour de 25. Donc avec Astro Gironde 33 et Vega de la Lyre, on est plutôt sur des gros clubs, hein, de 40-50 adhérents. Moi, par contre, en Dordogne, dans mon petit village, j'ai qu'une dizaine de personnes dans le club. Hein, voilà, il y a des clubs de toute taille.
Voilà, ça c'est pour l'activité, j'allais dire, structurelle, parce que sur les Nuits des Étoiles, on est au mois d'août, donc je ne vais pas revenir sur l'année 2020, triste à année, mais c'est vrai que ça permet d'avoir certainement notre public, de touristes, de gens de passage, et qui pourquoi pas s'inscriront dans un club chez eux.
Et une dernière petite précision par rapport à ce que disait Philippe, par rapport à la lecture, on appelle ça comme ça, du ciel avec un laser, Corinne n'en a pas parlé, mais je pense qu'ils le font aussi, ce que font tous les clubs, c'est parce qu'effectivement l'observation du ciel, elle commence même à l'œil nu, ne serait-ce que par connaître un petit peu les constellations pour se repérer dans le ciel, et c'est toujours quelque chose que le public apprécie, et on n'en a pas parlé avant l'émission, donc j'espère ne pas me tromper, mais à l'occasion des Nuits des Étoiles, l'AFA distribue des cartes du ciel que les structures peuvent donner aux enfants ou aux participants,
tout à fait.
Et qui permet, après les Nuits des Étoiles, une fois qu'on a appris à se servir de la carte, il faut une petite manip pour comprendre, de savoir tout seul un petit peu regarder le ciel pendant tout l'été, parce qu'en gros le ciel de l'été, de juillet à septembre, même un peu plus tard, il est à peu près le même.
Voilà. Alors là, comme on est malheureusement, on va arriver sur la fin. Michel, on va juste rappeler avec vous que nous, on a rendez-vous.
Le 1er septembre.
Non, jour des étoiles, c'est de
c'est toute
l'astronomie. Donc, prochain rendez-vous, et puis redonnez-le.
Normalement, le 1er septembre, parce qu'on est décalé au premier mercredi du mois à cause de ces histoires de règles sanitaires là, qu'on a eues ce printemps. Et normalement, septembre devrait nous permettre de nous recaler au dernier mercredi du mois, comme d'habitude, le 29 septembre. Donc, en septembre, il risque d'y avoir deux chroniques, une le 1er, une le 29. Qui, au passage, est aussi la Saint-Michel.
Très bien. Ça, c'est un petit clin d'œil. C'est bon, on prévoira.
Et j'aurais pas dénoncé l'anniversaire de Joël qui est demain.
Non, c'est bon. En tout cas, merci, Michel. On se retrouve donc le 1er septembre. Alors, Corinne, si on veut avoir toutes les infos, vu le nombre de rendez-vous dont vous nous avez parlé, je
présume
qu'il y a...
Une seule adresse, ag33.fr.
Donc, ag33...
La page observation, vous avez tout notre calendrier et vous y trouverez aussi le numéro de téléphone pour nous joindre.
Voilà, sauf que ces prochains jours, vous allez être occupés. Hein. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre entre l'organisation d'être présent.
On trouve toujours 5 minutes.
Voilà, mais je sais que toute l'équipe est mobilisée. Corinne, je ne sais pas par rapport à la SOU, juste un tout dernier mot que Philippe puisse s'exprimer. Donc tout va bien.
Oui. oui,
vous nous avez concocté plein de belles choses à venir et puis tout au long de l'année.
Et juste un dernier mot pour tous ceux qui veulent apprendre à servir d'un instrument, les animations Nuit des Étoiles, c'est pas les plus appropriées, mais les clubs restent ouverts toute l'année. N'hésitez pas à y venir.
Très bien, c'est un beau message. Philippe, un petit peu là, ben les mêmes questions pour vos assos respectives.
Pour nous, pour avoir les renseignements.
L'info.
Alors, sur notre site internet, Vega de la Lyre en un seul mot.fr et aussi au numéro de téléphone du secrétariat 06 52 27 64 41.
Voilà, c'est difficile de noter un numéro comme ça en antenne.
Je peux le redonner.
non, non, mais c'est au moins le site internet.
Alors, le site internet, oui.
On peut s'en rappeler. Donc, vegadelalire.fr.
Vegadelalire.fr.
Toutes les infos, le programme, bien sûr, de Cine
des Étoiles. Le programme est dessus, et, en page d'accueil et page contact. L'adresse mail et le numéro de téléphone.
Voilà, puis le numéro de téléphone pris sur le site, comme ça, quelqu'un veut vous contacter. Philippe, également, je ne sais pas s'il y a un dernier mot sur votre structure.
Elle est ouverte toute l'année, tous les samedis à 21h. Il y a toujours au moins une permanence. Toujours, vous pouvez venir, on vous accueillera en tant que visiteur sans souci.
Très bien. En tout cas, merci à tous les trois. Vous n'aurez pas pu tout dire, mais vraiment merci pour l'enthousiasme. On fait un petit coucou à Denis, qui est membre de l'association AG33. Voilà, parce que on va pas pouvoir faire d'agenda, mais on va se quitter en musique.